Il y a un mot qui, après avoir été une pensée sublime, a fini par devenir une formule creuse. La grâce. Pour beaucoup, elle est devenue cette faveur toute spéciale faite aux croyants, devenant un secours exceptionnel que Dieu, par un injuste favoritisme, accorde aux uns pour les sauver et le refuse aux autres. Alors que la grâce est tout simplement ce que ce mot veut dire, l'attrait, l'influence, l'action irrésistible de tout ce qui est divin sur la conscience humaine. Et alors, tous les humains sont également capables d'en ressentir les effets bienfaisants. La grâce de Jésus-Christ est cette vertu qui sort de lui, dont l'exemple est un commandement et dont la parole est une puissance. Éternelle source de tout amour et de toute sagesse, nous venons ce matin à toi avec des cœurs ouverts et des esprits en quête de vérité. Accorde-nous la grâce de la liberté de conscience et guide-nous sur le chemin de la justice et de la compassion. Aide-nous à accueillir avec bienveillance les diverses perspectives et croyances, à chercher l'unité dans la diversité et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Inspire en nous un profond respect pour la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa race, sa religion, son orientation de vie. Que notre foi ne soit pas une barrière, mais un pont vers l'autre, et que nos actions suggèrent ton amour inconditionnel et inclusif. Que ce matin, ta grâce nous attire à toi. Amen. Et nous chantons. Et nous restons debout pour adresser notre louange à Dieu à travers le psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Et nous poursuivons notre louange par par le psaume 92, les strophes 1, 2 et 3 du psaume 92.
Ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ton nom.
Quand Jésus s'assied sur la montagne et commence son enseignement, qu'il démontrera ensuite par sa vie et sa mort, quand il nous dit « Aimez vos ennemis, rendez le bien pour le mal, bénissez ce qui vous maudit, soyez doux, miséricordieux, purs de cœur, patients, humbles, confiants, comme des petits-enfants. Ayez faim et soif de la justice. Endurez la persécution. Réjouissez-vous quand vous souffrez pour la justice. Donnez à qui vous demande. Pardonnez 70 fois, 7 fois. Que votre main gauche ne sache pas ce que donne la droite. Quand vous priez, ne le faites pas comme les hypocrites. Ne vous amassez pas des trésors ici-bas, mais là-haut. Cherchez avant tout le royaume des cieux et sa justice. Soyez saints, comme Dieu est saint. Soyez les enfants de celui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et après tout cela, dites encore, je ne suis qu'un serviteur inutile. Pour croire à ces paroles et croire que nous sommes capables de les réaliser, que le divin nous en donne la force, il suffit d'avoir un cœur d'homme. Il suffit de les entendre pour dire « Cela est vrai, cela est beau. » Cela est bon, et c'est ainsi que je dois vivre. Amen.
Ton serviteur écoute. Thank you.
et nous prions. Éternel, enlève de moi toute prétention à vouloir définir ce qu'est un bon chrétien, en me basant sur ma seule compréhension de l'Évangile. Accorde-moi de me libérer de tout système et d'apporter mon dévouement, de me perfectionner spirituellement sur la base des paroles et des gestes de Jésus le Christ. Place au cœur de ma foi l'amour. L'amour pour les êtres humains et l'amour pour toi, quelle que soit l'image que je me fasse de toi. Et fais-moi entrer activement dans le service d'un évangile qui s'adresse au monde et qui nous appelle à être parfait comme tu es parfait. Et faire ainsi de l'impossible un possible. Donne-moi encore d'espérer en un salut qui n'est pas uniquement un salut individuel et égoïste, mais qu'avec mes frères et sœurs et la société entière, nous tendions vers un salut pour tous, un progrès de tous et une ascension commune de l'humanité vers toi, vers le bien idéal et absolu. Éternel, j'ai besoin de toi pour avoir l'élan et cette aspiration vers le divin. Amen. L'enseignement de Jésus le Christ nous transforme, nous fait grandir et nous fait marcher vers notre pleine humanité. L'Évangile ne nous rend pas coupables. L'Évangile nous appelle. Il nous appelle à être cette humanité accomplie, libre, fière, féconde, heureuse. Et délivré de tout mal. Oui, aujourd'hui, l'Évangile nous appelle. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance envers ce Dieu. Mon frère, ma sœur, ici dans notre Église, nous ne jugerons pas tes opinions. Nous les respecterons comme tu respecteras les nôtres. Nous ne te demanderons pas comment tu comprends la Bible, mais seulement si tu veux inspirer de son esprit ta vie entière. Nous ne te demanderons pas si tu as trouvé dans la Bible que l'Évangile a été dicté d'une manière surnaturelle, ou seulement qu'il est la plus pure, la plus haute expression de l'âme humaine. Nous ne te demanderons pas si tu as trouvé dans la Bible que Jésus est Dieu, ou simplement le Fils de Dieu, ou seulement qu'il est un homme envoyé de Dieu. Nous ne te demanderons pas si tu as trouvé dans la Bible que Dieu est un, ou qu'il est Trinité, qu'il est une personne, ou qu'il est plus et mieux qu'une personne. Tout cela te regarde. Nous te demandons qu'une chose. Aimes-tu Jésus ? Veux-tu te joindre à nous pour avancer ensemble dans les voies qu'il a frayées à l'humanité ? Alors, mon frère et ma sœur, nous apprendrons ensemble à faire le bien. Unis malgré les plus graves divergences de pensée, nous poursuivrons dans un affectueux esprit de liberté l'œuvre évangélique d'édification individuelle et collective. Oui, nous croyons au bien, au vrai, à la justice, à l'amour, au dévouement. C'est-à-dire que nous croyons en Jésus, car le Jésus des évangiles n'est que l'incarnation de toutes ses vertus. Nous croyons en un Dieu qui ne se démontre pas, mais que nous pouvons sentir. On ne peut forcer à le reconnaître, mais nous pouvons le trouver et l'aimer. Parce que nous croyons qu'il n'y a rien de plus grand que la puissance d'amour. Amen. Pour ce dimanche, je vous propose une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 2, les versets 23 à 28. Il arriva un jour de Shabbat que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim ? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Et je vous invite à chanter les strophes 1 et 2 du cantique 170. Éternel, nous te remercions pour la liberté que tu places au cœur de ta parole. Que cette liberté vienne maintenant ouvrir nos cœurs et nos esprits. Nous savons que la parole n'est pas vraie parce qu'elle est divine, mais qu'elle est divine parce qu'elle est vraie. Qu'elle vienne maintenant faire écho en nous et devienne pour nous la vérité. Amen. Alfred Jarry a dit « Ce n'est pas amusant d'être libre tout seul. » On peut se poser la question d'ailleurs de savoir si on est vraiment libre quand on est seul. Alors, on pourrait dire sans doute que oui. Oui, nous sommes libres quand nous sommes seuls, puisqu'il n'y a personne pour venir nous limiter, nous interdire. Nous contrôler. On pourrait dire d'ailleurs que lorsqu'on est seul, on peut tout faire. En fait, on peut, oui, tout faire, mais dans la limite de notre conscience. Parce que qu'on le veuille ou non, nous avons en nous toujours une conscience de ce qui est bien ou de ce qui est mal, de ce qui peut se faire et de ce qui ne peut pas se faire. Et même nous avons en conscience ce que j'ai vraiment la possibilité de faire, et puis les limites qui sont là. Mais si cette liberté semble totale, en fait, même lorsque je suis seul, cette liberté est limitée, parce que je ne peux pas tout faire. Je crois que le seul fait d'être seul est déjà une limite. Je ne peux pas, seul, par exemple, dire du mal de quelqu'un ou du bien de quelqu'un. Parce que ça impliquerait automatiquement qu'il y ait un quelqu'un, même s'il n'est pas à côté de moi. Et donc, quand je dis du mal de mon voisin, c'est bien qu'il y a un voisin et qu'il est donc là, quelque part. Je ne suis pas seul. Mais je ne peux pas tout faire également parce que je suis un corps, un physique, et que ce corps est soumis à certaines règles, à des lois naturelles. Je ne peux pas décider d'arrêter de manger pour gagner du temps sur mes journées, parce qu'au bout d'un certain temps, même si effectivement je peux, moi, personnellement, tenir quelques jours, au bout d'un certain temps, quand même, je tomberai malade, et si j'arrête vraiment de manger, mes capacités motrices et intellectuelles vont baisser, et je finirai bien sûr un jour par mourir. La liberté implique donc qu'il y ait de l'autre. De l'autre qui me permette de placer une limite. Et la liberté est alors ce rapport que ma conscience a avec cette limite. Je peux l'accepter librement, si c'est en accord avec ma conscience, ou je peux aussi, bien sûr, décider de dépasser la limite. Et dans les deux cas, cela a des incidences différentes. Je peux, j'ai le droit, je suis libre d'accepter certaines lois. Parce que je considère qu'elles sont nécessaires pour le pays, pour le peuple. Mais j'ai aussi la possibilité de refuser d'appliquer une loi, surtout si celle-ci me paraît injuste. Dans ce cas, je sais en conscience que je transgresse. Et je sais également que je risque une condamnation. Et je crois que c'est là que réside l'authentique liberté, quand je choisis en conscience et en responsabilité. Prenons un exemple dans notre pays. La loi réprime l'entrée, le séjour et la circulation des personnes étrangères en situation irrégulière. Et l'aide apportée à ces migrants constitue une infraction pénale. Je peux accepter cette loi. J'ai la liberté de la trouver juste. Oui, c'est ma liberté. Même si, bien sûr, je ne partage pas cette opinion, mais j'accepte que d'autres puissent la voir. C'est leur liberté. Mais je peux aussi trouver que cette loi est totalement injuste, inhumaine. Notamment quand elle condamne celles et ceux qui ont apporté de l'aide à des migrants qui traversaient les Alpes à pied, ou bien à celles et ceux qui ont sauvé de la noyade des migrants qui traversent la mer sur des bateaux de fortune. En fait, nous retrouvons ici le conflit entre deux formes d'éthique ou de morale, c'est selon, l'éthique de conviction et l'éthique de situation. Oui, la première se fonde donc sur une conviction, qui est en lien avec une réflexion. Et si je garde le même exemple de cette loi, je peux considérer qu'effectivement, s'il n'y avait aucune limite, aucun contrôle des migrations sur le territoire, il peut y avoir un risque. Et cela peut même être, cette loi pourrait même être bénéfique pour les migrants, parce qu'en l'accueillant légalement, en accueillant quelqu'un légalement, on lui accorde des droits. Tandis que si on le fait entrer illégalement, on condamne ce migrant à être dans la clandestinité, et donc d'être là sans droit, et particulièrement en matière de santé. Ça, c'est bien sûr une éthique de conviction. Mais si je me retrouve confronté, en réalité, à des personnes en situation de danger, et pour qui la seule chance, c'est d'entrer sur le territoire, alors oui, sans hésiter. Parce que ma conscience voit d'abord la vie humaine, je ferai tout mon possible pour aider cette personne, quand bien même je risquerai d'être condamné. Et là, c'est l'éthique de situation. La situation m'oblige à agir différemment peut-être de ma conviction. Et nous pouvons vivre cela dans plein de domaines, très différents, et même dans les petites choses de chaque jour. Dans une étude sur les liens entre la religion, la morale et la science, Ferdinand Buisson, nous en parlions hier au brunch libéral, Ferdinand Buisson prend un exemple qui pourrait tout à fait être une illustration de ce qui se passe avec les disciples de Jésus dans ce champ de blé un jour de Shabbat. Pour le dire rapidement, Buisson prend l'exemple d'une tribu dans laquelle la règle morale et religieuse interdit aux femmes d'accoucher dans leur maison. C'est la règle. Règle religieuse. Règle de la tribu. C'est comme ça. Et tout le monde le respecte. Parce qu'en fait, tout le monde adhère à cette règle. Elle est admise. Alors quand une femme arrive au terme de la grossesse, eh bien son mari part construire un abri à l'extérieur où la femme pourra aller donner naissance à leur enfant. Mais voici qu'une femme, sans les premières contractions annonçant la naissance imminente, un peu trop tôt, beaucoup trop tôt. Et l'homme, son mari, n'a pas encore eu le temps de construire l'abri comme c'était prévu. Alors Buisson nous dit, pour cet homme, s'il respecte la règle, eh bien il n'a qu'à prendre sa femme, creuser dans la neige un trou où il pourra la déposer. Mais il sait que le lendemain, il la retrouvera sans vie. Alors soit cet homme accepte de se soumettre à la règle religieuse qui semble pourtant immuable, soit il transgresse la loi religieuse parce que sa conscience l'oblige à changer de morale. La règle n'est plus le bien, et le bien est dans la transgression. Et c'est souvent à cause de la compréhension de la religion comme morale figée et stricte, c'est souvent par cette compréhension-là que nos contemporains fuient toute forme de religion. Et que nous voyons alors apparaître comme une sorte de contre-religion, ou comme le dirait le philosophe Guyot, une irréligion, qui va se fonder souvent sur les seuls principes de la science. Cette science qui devrait pouvoir tout expliquer, lever le mystère sur tout. Et alors, pour Gastier, dans cet exemple de Buisson, l'accouchement par une femme d'un enfant est un cycle de reproduction de l'espèce, tout simplement. Tout comme en ce qui concerne les disciples de notre récit, la faim et le fait de manger est une nécessité physiologique. J'ai faim, je mange. Pour en revenir à notre texte, nous avons d'un côté des religieux qui pose comme règle qu'il ne faut pas arracher de blé un jour de Shabbat parce que c'est considéré comme du travail. Et la loi interdit le travail ce jour-là. Qu'ils aient faim ou non, peu importe. Il faut respecter la règle. Et puis nous avons de l'autre côté des disciples qui, eux, ont faim. Et ils mangent. Le corps le leur réclame, processus physiologique de nutrition. Le premier système, celui des religieux que j'appelle moral, pose un interdit et donc limite la liberté. Le second, que j'appellerai la science quelque part, ne pose aucune limite et permet une liberté totale. J'ai faim, je mange. Mais si nous voyons bien les limites du premier système, il faut voir que le second se fonde sur une liberté qui ne tient pas compte de l'autre. C'est un peu vouloir être libre tout seul. Il ne s'agit pas de faire de la loi religieuse une règle immuable sous peine de condamnation divine. Mais il ne s'agit pas non plus de supprimer toute loi religieuse. Et ce que Jésus nous invite à faire, c'est de replacer simplement la religion à sa juste place. Non pas un système suprême et absolu, non pas une chose à supprimer, mais quelque chose qui accompagne l'être humain vers le bien absolu. Et pour cela, il faut que la religion s'articule au monde dans lequel elle se trouve. Oui, frères et sœurs, aucune religion n'est immuable. Il faut accepter qu'elle évolue, qu'elle change, qu'elle accompagne l'homme et la femme d'aujourd'hui. Et la religion est également ce qui nous permet de ne jamais se penser arriver au bout. au bout des explications du vivant, du monde, de l'univers. La religion n'empêche pas de se questionner. Elle n'empêche pas de faire des avancées scientifiques. Et parfois même, ces avancées obligent la religion à évoluer elle-même. Il faut que la religion, quelle que soit son expression, pour nous, elle sera teintée d'évangile, pour d'autres, d'autres choses. Mais le sentiment religieux reste toujours le même, et il faut que la religion, quelle qu'elle soit, empêche d'oublier que ces questions se posent. Je crois que notre sentiment religieux, que la religion elle-même, m'interdit de croire que je suis seul au monde, que je sais tout, ou croire que tout est clair, scientifiquement prouvé. La religion, c'est ce qui me permet finalement de sentir ma place dans l'univers, mais dans un univers qu'il faut expliquer et continuer sans cesse à chercher plus loin. Un univers dont je ne trouverai jamais les limites. Oui, la religion est une fenêtre ouverte sur l'infini, mais qui ne nous fait pas posséder l'infini. La religion nous fait simplement échapper à la prison du fini. Voilà la liberté que la foi nous donne. Échapper à la prison du fini pour aller toujours plus loin, dans le bon, dans le beau et dans le vrai. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 297, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
C'est maintenant le moment des annonces.
Je te rejoins.
Bonjour à tous. Bonjour à toi. Au nom du Conseil presbytéral, merci Christophe de nous rejoindre pour ce deuxième culte de l'année après avoir eu Gilles Castelnau la semaine dernière. Si quelqu'un veut bien fermer la porte de la grande sacristie, je ne sais pas pourquoi elle est rouverte, merci beaucoup, parce que ça nous fait des courants d'air. Pardonnez-nous pour le froid ce matin. Alors le froid dehors, on n'y est franchement pour rien. En revanche, le froid dans le temple, c'est parce que... Venez. C'est parce que ça fait 3 jours que nous avons les portes du temple grandes ouvertes, parce que nous avons à peu près évacué entre 40 et 50 mètres cubes d'inflammables et autres déchets qui étaient dans des salles cachées vers le toit. Et du coup, quand on ouvre grand les portes pendant 3 jours, ben c'est sûr qu'on a beau être chauffé par le sol, il fait très froid, donc pardonnez-nous, mais ça nous évitera de brûler. Hein, voilà. Donc, parce que là, on aurait pu avoir très chaud dans les flammes de l'enfer. Voilà. Donc vraiment, merci à tous ceux qui ont fait un énorme boulot, y compris d'ailleurs Madame Delin et Gérard Delin et le Conseil presbytéral. Également, nous avons eu des gens qui ont travaillé avec nous de Travail au Clair et Bâtir, qui nous ont aidés, parce qu'il a vraiment fallu beaucoup de bras. Et voilà pourquoi vous avez froid. Trois choses. Cette semaine, enfin 3 dates à retenir cette semaine, s'il vous plaît. La première, le groupe des jeunes se réunit mercredi sur le thème de la confiance. Encore des jeunes dimanche prochain, éducation biblique. C'est un dimanche d'éducation biblique. Également, nous avons un scout avec nous. Et les scouts, eux, vont finir de remplir la benne tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tes chefs, en tout cas, vont te faire évacuer aussi tout ce qu'il y a dans la maison presbytérale. Voilà, il a l'air tout malheureux. Mais juste avant, quand même, donnez-lui du courage et achetez-lui des gâteaux. Pourquoi on t'achète des gâteaux ?
Parce que moi, je fais partie des aînés. Et du coup, cette année, on est censé partir faire une action humanitaire ou un projet d'aide humaine et sociale au mois d'août. Et du coup, il faut le financer. Du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, on est plusieurs à vendre des gâteaux devant le temple.
Voilà, et mangez-en un peu parce que vous allez encore du boulot hein, cet après-midi, je plaisante pas. On a laissé un peu de place pour les scouts parce qu'à la maison presbytérale, on va aussi probablement sortir 20 mètres cubes de différentes choses. Également, une date, s'il vous plaît, que nous vous demandons de retenir, mardi 21 janvier, 17h30, nous inaugurerons officiellement avec les officiels de la ville de Paris qui nous ont aidés dans ce projet, également de la direction des affaires culturelles, et surtout avec les familles ou les pasteurs eux-mêmes des 19 pasteurs dont nous avons inscrit maintenant les noms sur nos murs. Donc nous avons contacté les pasteurs encore vivants. Malheureusement, il y a aussi des pasteurs qui sont décédés depuis, mais nous avons contacté leurs familles qui seront aussi là. Donc venez dire merci à tous ceux, s'il vous plaît, qui ont œuvré pour cette restauration qui consistait à mettre en valeur le patrimoine aussi du protestantisme parisien et de celui de l'oratoire du Louvre, puisque vous savez que avant, vous savez ou vous ne savez pas d'ailleurs qu'avant 1882, l'oratoire était l'église de Paris, c'était le consistoire de Paris, et après 1882, c'est la paroisse telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc vraiment, mardi 21 janvier 17h30, vous êtes tous les bienvenus. Tout le détail de cette restauration est dans la nouvelle feuille rose que nos donateurs devraient recevoir cette semaine, puisqu'elle a été postée vendredi soir. Vous l'aurez également à votre disposition à partir de dimanche, mais on n'a pas voulu faire de l'ombre hein, à Libre Croyant, donc on a décidé de ne vous la donner que la semaine prochaine, parce que on voudrait vraiment parler d'un journal qui est là, que vous avez sur la table là-bas également, et vous avez en face de vous le président et la vice-présidente du comité de rédaction. Ah bon, c'est qui le président du comité de rédaction? Ah bon, alors je te passe la parole.
Voilà, donc, avant tout, d'abord, je vous adresse la salutation des Cévennes. Et je tourne le dos à la... Donc, pour... Et c'est très bien partout. Voilà. Pour parler de Libre Croyant et Libre Croyante, C'est le journal qui donc succède à ce journal que vous avez connu, Évangile et Liberté, et on poursuit l'œuvre du mouvement libéral. Donc, je suis officiellement le secrétaire général de l'Union protestante libérale et progressiste, qui est la nouvelle association du mouvement libéral, et Béatrice est rédactrice en chef du journal. Voilà, mais on travaille ensemble avec une équipe. Donc vous avez le numéro 1 qui est maintenant, qui commence à dater. J'espère que tout le monde l'a déjà ici, mais sinon vous en avez à la sortie, n'hésitez pas à le prendre. Alors voilà, abonnez-vous, soutenez ou adhérez à l'association, 10 euros minimum, et vous recevrez 4 numéros par an du journal, qui va s'améliorer en qualité physique même, et bien sûr la qualité à l'intérieur sur le fond reste et s'améliorera aussi au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a toutes les informations dans le journal, il y en a à la sortie, prenez-en, vous pouvez en prendre même pour en donner autour de vous, n'hésitez pas, et on espère donc pouvoir d'ici mars sortir le numéro 2 et ensuite garder le rythme de 1 par trimestre. En attendant, vous pouvez aussi tout retrouver sur le site internet qui est libre-croyant-e.com. Pour tous ceux qui n'aiment pas le mot progressiste, qui est dans le nouveau nom, rassurez-vous, il y a plein de gens qui n'aiment pas le mot libéral. Alors, ça fait une bonne moyenne, voilà. Si on est en France, qu'on utilise le terme libéral, on nous dit toujours, ah, c'est de l'économie, ça nous plaît pas, bon. C'est de la politique des riches, voilà comme tu dis. Quand on va en Suisse et qu'on utilise le mot progressiste, on nous dit, ah, c'est l'extrême gauche. Voilà. Donc entre la Suisse et la France, on arrive à quelque chose d'assez global. Et donc, voilà, et puis on voulait réunir un peu tout ce qui était ses forces dans un protestantisme, en tout cas de liberté. Et le titre est en forme inclusive, rassurez-vous aussi, pour ceux qui ne supportent pas l'écriture inclusive, le journal n'est pas écrit totalement en forme inclusive. Voilà. Voilà. Juste le titre parce que, eh ben, il en faut pour tout le monde. Et puis, j'en profite aussi pour vous rappeler que on poursuit depuis bientôt 60 ans les journées du protestantisme libéral, qu'on appelle journée du protestantisme en liberté. Elles auront lieu, vous pouvez déjà le noter, les 11 et 12 octobre, à 7, dans le très beau centre du Lazaret. Et le thème cette année, je vous l'annonce, le thème est de quel Dieu sommes-nous athées ? De quel Dieu sommes-nous athées ? Ça commence bien, voilà. On vous fera passer, bien sûr, beaucoup d'informations là-dessus. Merci.
Voilà, alors juste merci beaucoup Christophe pour cette belle présentation de ce journal. Juste dire que dans ce journal, nous essayons de faire en sorte que des thématiques qui nous touchent actuellement soient abordées avec un dossier le plus varié possible et des rubriques nouvelles par rapport peut-être à ce qui existait dans Évangile et Liberté. Mais c'est le même esprit qui reste et je voudrais exprimer ma reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont travaillé à Évangile et Liberté et qui ont fait en sorte que cette pensée puisse continuer à irriguer notre Église et au-delà de notre Église. Et je suis très reconnaissante à ceux qui nous ont précédés dans cette œuvre. Et nous essayons d'être donc dans cet esprit d'un libéralisme ouvert et vraiment une façon de présenter des thématiques qui concernent nos contemporains et qui puissent amener la théologie dans les lieux les plus profanes qui soient et les plus habituels, quotidiens, pour que chacun puisse trouver une parole qui nourrisse sa vie. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas avec ces nouvelles rubriques. Voilà. Merci à vous donc de prendre ce journal si vous ne l'avez pas encore en votre possession à la sortie du temple et puis d'adhérer à l'association. Vous voyez, c'est pas un énorme effort financier, mais ça fait évidemment la différence quand il y a beaucoup de soutien dans une association. Donc n'hésitez pas. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Ah non, alors c'est le moment de notre présidente.
Si, mais pour être logique, je propose. J'ai envie d'envoyer un texto à mon trésorier. Non, je ne lui ai pas envoyé un texto, mais je suis sûr qu'il est d'accord que nous donnions l'offrande à l'association dont tu vas répéter le nom, s'il te plaît.
Alors c'est simple, on peut le dire sous un sigle, UPLP, mais l'Union protestante libérale et progressiste. Peut-être que petit à petit, nous prendrons l'habitude de parler de l'Union. Je trouve que c'est bien quand on dit l'Union, et ça montre aussi qu'on est dans la diversité, ensemble dans la diversité et unis.
Voilà, donc soyez généreux et joyeux. Merci beaucoup.
Je vous invite à la prière. Éternel, accorde-nous d'être une église pour le monde, fidèle et libre. Que nous soyons ton église. Que jamais nous ne soutenions que l'église est faite pour croire ou qu'elle se fonde sur une vérité théologique unique, mais qu'elle soit l'assemblée de celles et ceux qui te cherchent. Que l'Église soit la réunion de celles et ceux qui travaillent en commun au perfectionnement humain d'eux-mêmes et de la société tout entière. Que l'Église soit la coopération de toutes celles et de tous ceux qui œuvrent pour l'avancement spirituel et la recherche du bien et de la justice sociale pour l'humanité. Que l'Église soit cette assemblée des âmes luttant toutes ensemble contre tous les fléaux qui ternissent et tuent notre humanité, pour prendre leur essor vers cet idéal qui leur apparaît à toutes sous le nom de Dieu. Donne-nous d'être l'Église qui se rassemble pour agir et faire le bien. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, l'important, l'essentiel, a dit Jésus, c'est qu'on aime. Aimer et pratiquer ce qu'il faut faire. Aimer et vous verrez ce qu'il faut croire. Aime et fais ce que tu veux. Aime et crois ce que tu peux. Et l'Éternel, le bien absolu, vous bénit, vous et vos familles. Amen.